Le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour. Le gouvernement jurassien pas favorable à l'introduction du vote consultatif dans les communes. Il a rendu un rapport ce jeudi. Haute-Saône aurait notamment aimé un tel outil pour sonder sa population sur la géothermie profonde. L'Union patronale et Économie suisse s'inquiètent de la pénurie de main-d'œuvre. Elle devrait s'aggraver ces prochaines années. 460 000 travailleurs pourraient manquer dans 10 ans. Ces mots après sa défaite étaient attendus. Kamala Harris a pris la parole la nuit dernière devant ses partisans après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine, a résumé avec notre correspondant à Washington. La météo du classique pour cette fin de semaine, brouillard le matin qui se dissipe pour laisser un peu de place au soleil, pas de gelée matinale, 12 à 14 degrés pour les maximales. Après l'expérience géothermie profonde, le gouvernement jurassien ne voit pas l'intérêt d'introduire le vote consultatif dans les communes. Il a rendu aujourd'hui son rapport qui répond au postulat d'Alain Schweingruber, accepté par le Parlement en mars 2023. Le député PLR proposait une modification de la Constitution ou de la loi pour permettre aux communes de recourir à ce vote consultatif. Une demande liée à la volonté de Haute-Saône d'utiliser cet instrument dans le cadre du projet de géothermie profonde. Après analyse de la situation, le gouvernement n'est pas convaincu, Nicolas Meusy.
L'exécutif cantonal souligne plusieurs désavantages du vote consultatif. Déjà, il n'a pas de force légale contraignante, ce qui veut dire que les autorités locales ne sont pas obligées de suivre l'avis exprimé par la population. Et cela pourrait créer de la frustration chez les citoyens, tout en rendant la prise de décision plus difficile pour les pouvoirs exécutifs locaux. Le gouvernement ajoute que l'instrument pourrait tromper la population lorsqu'il se réfère à un dossier sur lequel l'autorité communale n'a pas de compétences décisionnelles. Et puis l'État jurassien indique encore que la tenue d'un vote consultatif prendrait du temps et de l'argent aux communes. Alors, pour éviter des scrutins inutiles, le gouvernement explique que les sujets pouvant être soumis au vote consultatif devraient être déterminés de manière précise. Selon lui, un tel instrument pourrait faire sens lors de projets de fusion de communes ou de développement territorial, mais à un stade précoce des démarches. Le gouvernement n'entend donc pas proposer de révision de la loi pour introduire le vote consultatif dans le droit politique des communes.
C'est l'enjeu majeur du dossier santé en Suisse, trouver des moyens pour faire baisser les coûts de la santé et les primes. Les Suisses sont aussi appelés aux urnes le 24 novembre pour voter sur la réforme de l'assurance maladie, également appelée financement uniforme des prestations. Si la réforme est acceptée, quels changements dans le Jura? Quelles conséquences sur les finances cantonales? On va tenter de répondre à ces questions avec Marceline Michon. En quoi consiste cette réforme?
Le point majeur de la réforme, c'est de financer toutes les prestations de l'assurance de base, donc ambulatoire, hospitalière ou dispensée en EMS, selon la même clé de répartition. La clé, c'est la suivante, 26,9% à la charge des cantons, 73,1% à la charge des assureurs. Actuellement, les soins ambulatoires sont pris en charge à 100% par les assureurs. Avec la réforme, le canton du Jura prendra en charge 26,9% de ses coûts, donc il payera plus. Par soins ambulatoires, on entend en cabinet médical, chez un thérapeute ou à l'hôpital, sans nuitée notamment. Les soins hospitaliers maintenant effectués à l'hôpital avec nuitée sont actuellement pris en charge à 55% par le canton du Jura. Avec la réforme, cette part tombera à 26,9%, toujours la même part, le canton payera moins. Et enfin, les soins de longue durée en EMS ou à domicile continueront d'être pris en charge à hauteur d'environ un tiers par le canton. Statu quo avec la réforme selon le service jurassien de la santé publique. L'objectif, c'est d'encourager les traitements ambulatoires pour faire baisser les coûts et les primes. Actuellement, les assureurs n'ont pas intérêt à encourager ce type de soins qu'ils prennent en charge à 100%.
Et si la réforme passe, quelles implications financières pour le Jura ?
Selon le service jurassien de la santé publique, l'impact financier de la réforme serait pratiquement nul pour le canton. L'augmentation de la prise en charge des coûts ambulatoires de 26,9% d'un côté et de l'autre, la diminution des coûts hospitaliers d'une proportion pratiquement similaire, eh bien, devrait s'équilibrer selon les estimations du canton.
Mais pour le service jurassien de la santé publique, un doute majeur subsiste sur la mise en œuvre de la réforme, Marceline.
Oui, parce que dans la pratique, les assureurs paieront la totalité des prestations et factureront ensuite sa part au Jura, 26,9% pour les patients domiciliés dans le canton. Les assureurs en possession de l'ensemble des données se verront ainsi conférer plus de pouvoir qu'actuellement. Selon le service jurassien de la santé publique, il faudra ainsi mettre en œuvre un système d'échange d'informations et de données entre les assureurs et les cantons. Avec quelle sécurité? Avec quelle garantie de transparence transparence de la part des assureurs. Autant de questions qui restent pour l'instant en suspens, selon le canton.
Et on rappelle encore que la droite, le Conseil fédéral et le Parlement soutiennent cette réforme. La gauche, elle, s'y oppose. Le soutien à la culture se digitalise dans le Jura. Dès le 1er décembre, toute demande d'aide financière pour des projets culturels passeront par le guichet virtuel. Cette nouvelle procédure permettra de supprimer intégralement le papier et d'offrir un meilleur suivi des dossiers, indique le canton du Jura aujourd'hui. Le communiqué précise que l'Office de la Culture prévoit un nouveau système d'échéancier. À partir de l'année prochaine, les demandes de soutien ponctuel auront 4 dates butoirs pour être déposées: janvier, avril, août et novembre. RFJ vous propose de découvrir les coulisses de la justice jurassienne avec la désormais ex-procureure Laurie Roth, qui a quitté ses fonctions au ministère public le 31 octobre dernier pour réorientation professionnelle. Après plus d'une décennie passée à plaider pour l'État, elle revient sur l'une des difficultés majeures de la profession: la charge émotionnelle et les conséquences sur la vie privée.
C'est un travail exigeant, effectivement, qui empiète inévitablement sur la vie privée. Vous avez des permanences qui sont de 24 heures sur 24 pendant une semaine, environ 7 à 8 fois par année. C'est très intensif. Mais par contre, ce que j'aimerais relever, c'est qu'au ministère public jurassien, on a beaucoup de chance parce qu'il y a une solidarité extrême entre les collègues. Ensuite, il y a aussi une difficulté qui est propre à la grandeur du canton. Vous rencontrez constamment les gens que vous avez eus en instruction, en audition devant vous. Vous pouvez vous retrouver à côté d'eux lors de mariages, à des tables. Vous devez les ignorer, vous devez faire comme si rien ne s'était passé. Personne ne doit savoir autour de vous que vous les avez eus en instruction. Et puis ça, c'est parfois compliqué et gênant.
En lien avec la charge émotionnelle, Laurie Roth, l'une des affaires qui a beaucoup marqué le Jura cette dernière décennie, c'est le drame de Courfèvre il y a 5 ans. Pour vous, quel a été l'impact émotionnel de cette affaire ?
Ça a été une affaire difficile à gérer émotionnellement. Le plus dur pour moi a été d'annoncer les premiers éléments de l'enquête à la famille. Par chance, j'ai eu un policier très expérimenté qui m'a dit « Laurie, va pas toute seule faire ça ». Il m'a accompagnée, il m'a aidée à affronter cette charge émotionnelle aussi. Et puis, suite à ça, on a fait un débriefing avec Ajust, parce que c'est quand même des dossiers qui sont compliqués à gérer émotionnellement. Et puis, il ne faut pas se croire solide, il faut quand même demander l'aide qui est nécessaire pour ne pas avoir un retour de bâton plus tard.
Laurie Roth, qui était l'invitée de Marceline Michon dans la matinale. Entretien complet à retrouver sur notre site internet rfj.ch. La pénurie de main-d'œuvre devrait s'aggraver en Suisse. Dans 10 ans, il pourrait manquer près de 460 000 employés à plein temps. C'est ce que révèle aujourd'hui l'Union patronale et économie suisse dans une étude. Les baby-boomers partent progressivement en retraite et, vu le faible taux de natalité, eh bien, leurs départs ne sont pas compensés par la nouvelle génération. Le maintien de la libre circulation est crucial, soulignent les auteurs de l'étude, mais ils donnent aussi des pistes pour mobiliser davantage les travailleurs indigènes, Marie Vieumier.
L'attention doit se focaliser sur les femmes et les personnes de plus de 65 ans, estime Économie Suisse et l'Union patronale. Les conditions de travail devraient notamment être adaptées pour permettre aux mères de travailler à temps partiel avec des horaires flexibles, et les structures d'accueil extrafamilial doivent être plus accessibles et plus abordables. Les auteurs de l'étude recommandent aussi de meilleures incitations fiscales pour encourager les femmes à travailler. Pour mobiliser les plus de 65 ans, Économie Suisse et l'Union patronale proposent de valoriser leur expérience et leurs conditions de travail au sein des entreprises et d'améliorer le cadre étatique pour qu'il soit financièrement intéressant de rester actif au-delà de l'âge de la retraite. Les milieux économiques proposent encore d'exploiter d'autres potentiels au sein de la population indigène, par exemple chez les personnes en situation de handicap ou chez les personnes migrantes.
Et pour réduire la pénurie de main-d'œuvre, les auteurs de l'étude pensent qu'il est important d'accroître la productivité et l'efficacité grâce notamment à la numérisation des processus administratifs. Ces mots étaient très attendus aux États-Unis. Kamala Harris s'est exprimée cette nuit pour la première fois depuis sa défaite contre Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Son discours prononcé à Washington visait surtout à consoler ses partisans, passés de l'espoir mardi soir à la dure réalité du résultat des urnes le lendemain. Le résumé de notre correspondant aux États-Unis, Claude Porcella.
Les larmes coulaient sur bien des visages et Kamala Harris leur a dit « Ne désespérez pas, le combat peut prendre parfois du temps avant de porter ses fruits ». Ayant elle-même du mal à réprimer son émotion, elle a dit qu'elle avait adressé ses félicitations à Donald Trump, l'avait assuré que son administration l'aiderait pendant la période de transition et les deux se sont engagés à avoir un transfert du pouvoir en douceur. Mais au-delà de ces échanges de politesse protocolaire, Kamala Harris a montré que si elle avait été battue, elle n'était pas vaincue. Elle va continuer de se battre pour la liberté, l'égalité et la dignité des Américains. Elle a aussi déclaré à l'adresse de Trump « Dans notre pays, nous ne prêtons serment d'allégeance ni au président ni à son parti, mais à la Constitution des États-Unis ». Joe Biden, qui va à son tour commenter les résultats aujourd'hui, a lui aussi félicité son prédécesseur et l'a, comme le veut la tradition, invité à la Maison-Blanche.
Le reste de l'actualité à l'étranger, l'Allemagne est entrée dans une période de fortes incertitudes. Le chancelier Olaf Scholz s'est défié aujourd'hui par ses rivaux conservateurs qui veulent un vote de confiance au Parlement dès la semaine prochaine. L'opposition veut accélérer la tenue d'élections anticipées après l'implosion la veille de la coalition tripartite gouvernementale et le départ de tous les ministres libéraux. Le président sud-coréen n'exclut pas de livrer de l'armement directement à l'Ukraine pour l'aider dans sa guerre face aux forces russes. L'armée de Vladimir Poutine sera bientôt rejointe par des soldats nord-coréens. Selon Kiev et Washington, cela constituerait une évolution de la ligne de Séoul en la matière. Le gouvernement s'y opposait jusqu'à présent en raison d'une politique nationale de longue date qui l'empêche d'armer des pays engagés dans des conflits actifs.
RFJ, il est 12h26.
Sport. L'ère Greg Ireland a commencé à Porrentruy. Le nouvel entraîneur du HC Ajoie en National League de hockey sur glace a donné son premier entraînement ce matin à la Raiffeisen Arena. Vous entendrez les raisons de sa venue et ses objectifs dans le journal de 18h. Le nouvel attaquant français Pierre-Édouard Belmar est lui attendu en soirée dans le Jura. Il devrait participer à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers demain matin. L'actualité du HCA est aussi à retrouver dans la bande du jeudi. Notre chronique dédiée au Vouivre sera retrouvée ce soir exceptionnellement à 20h. 30. Notre trio de journalistes sera accompagné de l'attaquant à Joulot Philippe Michael DeVos en direct de Moutier Expo. Elle vise une médaille et si possible la plus belle sur la scène nationale. La gymnaste prévotoise Flavie Beuchat participera ce week-end au championnat de Suisse de gymnastique aux Agrès à Kirchberg dans le canton de Berne. Grande prétendante, si ce n'est la grande favorite à la victoire finale du concours général dans la catégorie reine. La gymnaste de 19 ans avoue même ne pas vouloir arrêter les Agrès tant qu'elle n'aura pas décroché ce titre, le seul qui lui manque et qui lui tend les bras. Loïc Georgi est allé à l'entraînement de Flavie Beuchat avant cette échéance cruciale.
L'année passée, comme les années précédentes, c'est surtout au niveau du sol. Il y a quelques lacunes et ça se passe jamais très bien le week-end des championnats suisses, alors que toute la saison, en général, ça va assez bien. C'est enfin, pas forcément des grosses lacunes, mais que j'ai un enchaînement qui plaît pas forcément au niveau suisse, alors que dans des petits concours, ben, ça va très bien. Du coup, c'est assez compliqué de savoir vraiment ce qu'il y a à travailler, ce qu'il faut améliorer. Et du coup, bah, arriver à la date échéante, c'est toujours un peu la surprise.
Donc l'idée, c'est en fait maintenant de trouver le fameux enchaînement qui vous permettra peut-être d'y arriver. On doit donc adapter son enchaînement, on doit changer. Comment ça se passe?
Alors, je ne l'ai pas changé. J'aurais peut-être dû, hein. Mais ce n'est pas encore fait. Et bah, je l'ai travaillé voilà, toute la saison. Donc j'espère que cette fois, ce soit la bonne.
Vous vous entraînez sur Fribourg, ici du côté de Glovelier. Vous sentez des grandes différences entre les différentes équipes?
Oui, alors il y a des grandes différences. On dit souvent qu'au Jura, on est bien carré, on fait des entraînements longs avec de la condition physique, etc. Et c'est vrai que nous, on s'en plaint peut-être. Et c'est quand on va voir ailleurs qu'on se dit... En fait, c'est quand même pratique, c'est bien. C'est... Ouais, je veux dire, comparé à Fribourg, ça n'a rien à voir. Fribourg, c'est plus du loisir, un peu, si je peux me permettre. Et du coup, bah, c'est vrai que ça change de faire deux entraînements ou un entraînement ici et deux entraînements à Fribourg.
Oh, c'est bien,
c'est notamment de la condition physique, puisque en fait, c'est, on dirait pas, hein, mais chaque mouvement doit être parfait, pointe de pied, etc. Et en fait, ça demande une énorme condition physique. Ça se voit pas forcément, mais en faisant les mouvements, ben, on le sent bien. Et du coup, c'est vrai qu'être préparé physiquement, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment axé sur la condition et voilà. Alors, comme on approche les championnats suisses, on va plutôt faire un échauffement normal et ensuite faire 4 engins. Mais c'est vrai qu'en semaine de préparation, ce sera plutôt un échauffement de la condition, peut-être un engin de la condition, un engin de la condition. Et c'est vrai que ça se base beaucoup sur la condition et un petit peu moins sur les engins.
Flavie Beuchat qui vise donc le titre au championnat de Suisse d'Agrès ce week-end à Kirchberg. Reportage signé Loïc Georgi. Le FC Ajoie Monterrey en football a une belle occasion de se mettre à l'abri avant la trêve. Les Ajoulots se déplacent à Binningen ce soir pour leur avant-dernière sortie de l'année en deuxième ligue interrégionale. Les Ballois comptent un point de moins au classement que le FCAM. Le vainqueur s'éloignera donc de la zone rouge. Coup d'envoi à 20h30.